dans le petit jardin public, il y a un petit kiosque à musique qui est sous ce petit kiosque à musique. Des petits musiciens viennent jouer tous les dimanches au petit matin. Au petit matin, une chanson que j'écrirai l'année dernière si j'en ai bien envie.
Nous sommes les petits musiciens et c'est notre kiosque à musique. Nous jouons le dimanche matin. Ouvrez vos oreilles hermétiques. Nous jouons le dimanche matin. Nous sommes les petits musiciens. Arrêt, arrêt, arrêt. Arrêt, filmez. Arrêt, arrêt, arrêt. Arrêt, arrêt, arrêt. Arrêt, arrêt, arrêt. Arrêt, nous sommes les petits musiciens et c'est notre kiosque à musique. Nous jouons le dimanche matin. Ouvrez vos oreilles hermétiques. Nous jouons le dimanche matin. Nous sommes les petits musiciens. Nous sommes les petits musiciens et sous notre kiosque à musique. Nous jouons le dimanche matin. Ouvrez vos oreilles hermétiques. Nous jouons le dimanche matin. Nous sommes les petits musiciens.
Vous êtes bien sur 89.4 FM, Radio Libertaire, et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Aujourd'hui, vous entendrez des cartes postales sonores, puis un poème et le décryptage de l'affiche « C'est quoi la liberté d'expression ?». À 14h17, vous entendrez l'interview des artistes de La Petite Sirène, spectacle passé au théâtre Antoine Vitez et décrypté par les petits correspondants du centre de loisirs Thorez. À 14h31, les actualités des mois d'avril et de mai, décryptées par les CE1A de l'école Rosaline Franklin. Enfin, à 14h40, la même classe nous offre son interview de Sarah Viella, une illustratrice qui est venue faire avec eux des affiches sur l'égalité filles-garçons. Bonne écoute.
Radio Cartable. École d'Ivry.
Le journal de la création.
Bonjour, je m'appelle Moussi, j'ai 8 ans, je viens de l'Algérie. J'ai sur un, l'école du 6 septembre. J'adore le bruit des moutons.
Je m'appelle Israël, je viens du Brésil, je suis un samedi.
Bonjour, je m'appelle Chad, je viens de Tunisie, je suis 9 ans. Je suis à l'école du 6 septembre à Ivry-sur-Seine, 94-200.
J'aime le bruit des oiseaux, je teste le bruit de fourchette que sur le ciel.
Bonjour, je m'appelle Anan, j'ai 9 ans, je suis en CMA. C'est Marion Aubin et j'aime toutes les sons.
Bonjour, je m'appelle Bintou, j'ai 10 ans. J'aime les bruits de chiens, je n'aime pas le bruit du vent.
Bonjour, je m'appelle Myriam, je viens de la Tunisie, je suis chez Agathe Besnard. Je suis en CM1B. J'aime le son des canards et des oiseaux. Je n'aime et je n'aime pas le son des voitures qui freinent.
Bonjour, je m'appelle Nadine, j'ai 9 ans, je viens de l'Algérie, je parle kabyle, je suis dans la classe de CMA B, chez Agathe. Le bruit que j'aime, c'est la musique, avec le bruit que je déteste, c'est pour pousser la table.
Le journal de la création.
Pour notre travail dans la carte postale,
d'abord on a étudié les sons, puis on a appris à utiliser les matériels pour enregistrer.
Nous avons d'abord écouté.
C'est qui est faible ou fort?
On a enregistré le tortue de l'étoile.
Nous avons extrait les pompiers, les trains et les voitures.
Aujourd'hui, nous allons écouter deux cartes postales. La première a été enregistrée par les UPE2A et montée par les CM1-CM2 de l'école Torres B. La deuxième a été enregistrée et montée par les UPE2A et les CE1 de l'école Joliot-Curie B.
Le journal de la création.
Bonjour les enfants. C'est un passage interdit. Ça fait des années qu'il est fermé.
Thank you. Bismillah, Abba, Abba. Assalamualaikum.
Merci aux intervenants de l'association Paix Passons, la pédagogie des paysages sonores, Arthur Angerhardt pour les prises de son et Gaëtan Ricciotti pour le montage. Ce projet a été financé par la DSDEN du 94 à travers l'appel à projet Adage.
Le journal de la création!
Une petite pause musicale avec Renan Luce, on n'est pas à une bêtise près.
Il n'y a pas classe ce matin, nous allons visiter un studio d'enregistrement. Ah, allez, suivez-moi et en silence. Allez.
On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner aux portes et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. Mes bonnes bêtises, je m'en souviendrai toujours. À croire qu'il y avait un concours du truc le plus interdit à faire un mercredi. Mes bonnes bêtises, elles ne sont pas si loin. Je revois encore le coin. J'y grattais pendant un bail, la peinture qui s'écaille. Notre poésie, c'était peinard, et sans corbeau et sans renard qu'on l'écrivait.
Il tape sur la tête, boum, il se retape sur la tête, boum, boum.
Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter en grande première mondiale le
poème du poète. C'est pour dire tout cela et mille et mille et mille autres choses, pas besoin de comprendre.
Bonjour, je m'appelle Yasmine et je vais vous réciter un poème de Maurice Carême qui s'appelle « Le Muguet ». Le muguet, cloche-naille veut du muguet, carillonné, car voici mes sous, une averse de lumière, les arbres chantent au verger, et les graines du potager sortent en rayon de la terre. Carillonné, car voici mes cloche-naille veut du muguet, les yeux brillants, l'âme légère, les fillettes s'en vont au bois, rejoindre les fées qui, déjà, dansent en rond sur la bruyère. Carillonné, car voici mes cloche-naille veut du muguet, Maurice Carême.
À quoi ça sert de faire du sport?
J'aime beaucoup faire du sport.
C'est vrai que les garçons sont égaux aux filles?
Débat, c'est intéressant ou pas?
X-Sagesse.
X-Sagesse.
Bonjour, nous nous appelons Célestine, Jaili, Adulbasset, Ritej, Rad, Sita, Naïl et Rayana.
Nous sommes les élèves de la classe 1A de l'école Rosaline Franklin à Ivry-sur-Seine.
Au mois d'avril, avec les essentiels d'un jour une actu, nous sommes demandés c'est quoi la liberté d'expression.
Pour nous, l'expression, c'est quand on parle. Alors, la liberté d'expression, c'est le droit de dire ce que l'on pense tant qu'on respecte la loi.
La tête avec les rouages illustre bien notre idée.
Elle montre qu'on a le droit de penser par nous-mêmes et de l'exprimer.
Deux illustrations nous montrent que s'exprimer, ce n'est pas qu'en parlant.
C'est aussi en chantant, comme on peut le voir sur l'illustration où une fille chante dans un micro.
Les textes de son chant peuvent être un bon moyen de faire passer son message.
Mon look, mon style, ma dégaine, pas la tienne. Mon look, mon style, ma dégaine, pas la tienne. Mon look, mon style, ma dégaine.
On peut aussi s'exprimer par le dessin ou la peinture comme le fait le graffeur Banksy par exemple.
Il y a donc plusieurs façons de s'exprimer et chaque choisit la façon dans laquelle il est le plus à l'aise.
Il reste une dernière illustration.
Elle représente la Terre avec deux visages.
Un qui parle et l'autre qui a la bouche cousue.
C'est pour nous expliquer que la liberté d'expression n'est pas respectée partout dans le monde.
C'est quoi la liberté d'expression ?
C'est un droit précieux que nous avons en France et qu'il faut protéger.
Bienvenue au théâtre Antoine Vitesse.
Les petits correspondants du théâtre Antoine Vité et nous sommes 8 enfants du centre de loisirs de l'école Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine. Mercredi 15 mai, nous sommes allés voir le spectacle La Petite Sirène de la compagnie Ruby.
Nous avons pu interviewer les artistes en bord plateau. Pouvez-vous vous présenter ?
Alors salut, moi je m'appelle Simon, donc je suis luthiste, donc musicien, je joue du luth et je suis comédien aussi.
Alors bonjour, moi je m'appelle Audrey, je suis violoniste et je joue de l'alto aussi dans le spectacle et je suis comédienne aussi.
Salut, moi je suis Vivien et sur le spectacle je suis comédien et percussionniste.
Comment vous êtes-vous formé à la musique ?
Comme tu as pu le voir dans le spectacle, on a tous des instruments différents, donc on a des parcours assez différents aussi. Moi j'ai commencé par le violon puis le piano à 6 ans. Et après, je me suis concentré sur le chant pendant presque 20 ans. Et puis, tous les instruments que tu vois là, j'ai appris tout seul de mon côté.
Comment vous vous êtes rencontrés ?
Vivien et Simon se connaissaient. Alors, je vais laisser vous raconter comment vous... L'Académie de musique ancienne.
C'est ça.
L'Académie du Périgord Noir, c'est ça ? Voilà. Et Vivien et moi, on se connaissait d'un spectacle de théâtre. On avait joué tous les deux. Et Simon, tu as eu la proposition par un festival qui s'appelle Alexandre vos écrits, autour de l'alexandrin, de monter une toute petite forme. Et donc on s'est réunis comme ça, en se disant qu'on allait juste faire ça, juste histoire de rigoler, de se faire quelques cachets, et puis voilà. Et en fait, ça a donné, ça fait plus de 10 ans, voilà, l'aventure qu'on connaît aujourd'hui, quoi.
Ça vous a pris combien de temps pour faire ce spectacle ?
Alors, ce spectacle, on a commencé en 2019 et il nous a pris en tout et pour tout presque 3 ans à écrire, parce qu'il y a eu une première version qu'on a tournée et on n'était pas totalement satisfait de ce qu'on avait écrit, donc on a repris tout ce qu'on avait fait et on a remis à plat et on a réécrit le spectacle que tu viens de voir. Donc ça prend en compte tous les textes qui sont originaux, les musiques qu'on compose nous-mêmes, mais aussi la recherche d'instruments, le travail avec Thomas, qui est derrière vous, qui a fait le son avec nous, et aussi avec Claire Gondrexon, qui a fait les lumières. Donc tout ça, on a travaillé tous ensemble sur plusieurs semaines pour construire peu à peu le spectacle dans son intégralité.
Moi, j'ai bien aimé, mais pourquoi vous avez décidé d'être assis dans votre spectacle ?
Alors, en fait, on s'est rencontrés de nos formations qui étaient assez différentes, la musique, le théâtre, et on n'avait pas forcément des envies de faire du théâtre au sens d'être debout avec des costumes. On s'est dit qu'on aimait bien l'idée que des musiciens concertistes, donc des musiciens qui, comme dans un concert, viennent et racontent une histoire au public. Donc on s'est habillés en noir, de manière assez neutre, et on s'est assis sur nos chaises. Voilà. Et de là est partie toute la mise en scène et le spectacle.
Que vous avez choisi une comédie musicale ?
Alors non, parce que là, nous, ce qu'on fait, c'est du spectacle théâtral et musical. Comédie musicale, c'est plus où tout est chanté, avec quelques scénettes parlées de temps en temps. Et puis surtout, il y a de la danse. Et puis, c'est des formations très complètes que moi, je serais bien incapable de faire ça.
C'est la troisième fois que votre compagnie adapte un conte. Et qu'est-ce que ça change entre la première et la troisième fois ?
Alors, ça change à la fois que on commence à se connaître de plus en plus. On sait ce que c'est que le travail de réécriture. Donc, à la fois, on sait les difficultés qui nous attendent. Donc, on arrive de mieux en mieux à les anticiper. Et à la fois, ça change pas grand-chose parce que on reste nous trois, on reste musiciens et on sait ce que c'est que d'adapter des histoires, donc juste on sait qu'il nous faut du temps et voilà, ça change pas curieusement. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis.
Il y a eu quand même je me souviens d'Hansel et Gretel qu'on a adapté il y a plus de 10 ans maintenant et au final on est resté très proche de l'histoire. On n'a pas cherché à changer énormément de choses. C'est juste la façon dont on racontait les choses qui étaient différentes. Et c'est vrai que là, sur La Petite Sirène, si vous connaissez l'histoire originale, il y a un gros changement quand même. Donc ça, au final, on a acté qu'on aimait bien réécrire. Voilà.
L'histoire de La Petite Sirène a changé dans le conte. Elle est amoureuse d'un prince. Dans votre spectacle, elle veut devenir marin. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer l'histoire? Est-ce que c'est pour que l'histoire soit un peu plus réelle?
C'est notre troisième spectacle, La Petite Sirène. Et le premier, c'était Hansel et Gretel, où on a raconté l'histoire exactement comme elle était dans le conte. La Belle au Bois Dormant, notre deuxième spectacle, c'était déjà un peu plus réécrit. Et donc La Petite Sirène, on a complètement réécrit l'histoire parce que déjà on aime bien le fait de réécrire et aussi de surprendre sur une histoire qu'a priori tout le monde connaît et de la raconter différemment. Et du coup, le reste de ta question, c'était est-ce que c'est parce que ça fait plus réel? Bah, pas spécialement. Nous, on trouvait que c'était juste chouette que, en fait, au lieu, parce que La Petite Sirène d'Andersen, ça se finit pas très bien. On trouvait ça plus chouette de raconter une histoire avec la petite sirène qui est très volontaire pour accéder à son rêve. Donc on trouvait ça plus actuel.
Aimez-vous la véritable histoire de La Petite Sirène?
Oui, moi je l'aime beaucoup. Alors, la véritable histoire, ça dépend de celle à laquelle on pense, mais nous on est parti de la version de Andersen. Parce qu'il y a aussi le dessin animé de Walt Disney, on se souvient souvent beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup la version originale, on va dire. Peut-être qu'il y a une version encore plus ancienne, mais parce que c'est triste et que justement, ça change que le personnage... Au final, je crois que j'aime bien aussi les histoires qui finissent mal, parce que ça fait partie aussi de la vie, de raconter ce genre de choses. Donc oui, j'aimais bien. Mais je trouve qu'on a, dans notre réécriture, justement, on a cherché à garder ça. Qui est une notion de sans révéler vraiment ce que c'est le spectacle de tristesse, quoi, disons.
Tu pensais quand même pas que j'allais partir sans toi?
Bah j'en sais rien, c'est ton rêve, pas le mien.
Bah oui, mais c'est quoi ce rêve sans toi? Grand-mère, j'en ai rien à faire. T'es la plus grande sorcière des mères, oui, mais t'es ma grand-mère. T'es ma petite mamie. T'es l'amour de ma vie. Ma passion, mais le plus beau pour moi, ce n'est pas l'ambition, c'est ma grand-mère, qui, avec attention, a écouté mon rêve et sans hésitation m'a dit: ma petite fille, c'est le rêve de ta vie, donc je vais t'aider grâce à la magie. Je sais bien qu'un beau jour tu devras t'en aller, je ne suis pas une enfant, j'ai bien conscience que les gens ne sont pas là pour l'éternité, mais c'est plus fort que moi. Je ne peux m'empêcher de penser que tu seras toujours avec moi si je deviens marin.
Tu vas devenir marin.
Si je deviens marin, ce sera grâce à toi. Et quand je serai marin,
je te ferai coucou comme ça.
Vous êtes-vous inspiré du dessin animé pour choisir les musiques?
Pas du tout. Moi, je l'ai même pas vu, La Petite Sirène, pour tout vous dire. Ouais, j'avais pas le droit au Disney quand j'étais petit. Enfin, oui, c'est vrai. Hein. Mais en fait, non. Alors, la musique, il y a plusieurs. Type de musique, on va dire, il y a des compositions. Donc là, on s'est pas inspiré du dessin animé, c'est juste des compositions de nous trois. Et après, il y a aussi des musiques qui sont, on va dire, traditionnelles, un peu. Il y en a deux ou trois qui sont dans le spectacle. Et en fait, là, on les a simplement choisies, toujours pas pour faire référence au dessin animé, mais plutôt parce que ça collait avec ce qu'on voulait raconter. Donc c'est le cas de la Hacha. La musique des marins, on voulait un truc très entêtant. Et puis c'est le cas de l'autre musique des marins, un peu quand ils ont le naufrage. C'est une musique anglaise traditionnelle, voilà. Mais c'est pas en lien avec Disney.
Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez parcouru?
Oui, on est. Si on est fier, c'est ça la question. Ah, on est fier parce qu'au début, en plus, c'était notre rencontre artistique était un peu un hasard, et en fait le fait que de fil en aiguille ça ait continué, on a développé les spectacles, on a développé la compagnie, parce que ce que vous voyez sur scène, c'est aussi le fruit d'un travail avec des gens qui s'occupent de travailler de manière un peu plus administrative, entre guillemets. Et du coup, tout ce parcours en fait, de notre rencontre un peu hasardeuse jusqu'à vous présenter aujourd'hui La Petite Sirène au Théâtre d'Ivry-sur-Seine, on est très fiers.
Je dis ça parce que je vois Thomas, mais on a aussi commencé, Hansel et Gretel à l'époque, dans des médiathèques à la lumière du jour, et on n'avait pas de micro, on n'avait rien, ce qui s'appelle être en acoustique. Et avec le temps, on a commencé à jouer dans des salles comme celle-ci, et l'équipe s'est agrandie. Je fais coucou à Thomas qui est là, qui fait le son. Il y a une énorme équipe avec nous maintenant, plein de personnes voilà, qui travaillent aussi à ce que l'histoire telle qu'elle se raconte, ça participe aussi à voilà, toute la dimension sonore et la dimension de lumière. Voilà.
Dans l'école Rosaline Franklin à Ivry-sur-Seine. Aujourd'hui, avec mes camarades, nous allons vous présenter les unes d'un jour une actu du mois d'avril. Bonjour Amir et Lina, quel était le premier sujet d'avril?
Bonjour Aylan, on part en voyage pour Londres.
Et pourquoi donc?
Car un graffiti a fait beaucoup parler dernièrement.
Il s'agit d'un graffiti du plus célèbre graffeur du monde, Banksy.
Sa spécialité est de peindre des fresques qui font réfléchir.
Cette fois-ci, il a représenté une femme qui asperge de la peinture verte.
Et pourquoi son graffiti nous fera réfléchir?
Parce qu'il l'a fait juste derrière un arbre sans feuilles.
C'est peut-être pour faire réfléchir sur l'écologie et l'importance de protéger la nature.
Très intéressant, merci Amir et Lina, en espérant que cela fasse réfléchir un maximum de personnes. Passons à l'actualité de Lucas et Iba.
Bonjour Aylan, nous allons parler des cheveux à présent, n'est-ce pas Iba?
Oui, Lucas, un jour en actu nous rappelle que certaines personnes sont moins bien traitées que les autres.
Elles peuvent, par exemple, avoir plus de mal à trouver un travail à cause de leurs cheveux.
Et pourtant, c'est interdit par la loi en France de traiter quelqu'un différemment en raison de son physique.
Pour mieux faire respecter cette loi, ce type de discrimination pourrait bientôt y être inscrit.
Merci à vous. De passons à Yasmine et Safia.
Bonjour Aylan, un jour une actu nous présente la plus grande piscine de France.
Oui Yasmine, elle a été construite à Saint-Denis pour les Jeux Olympiques.
Cette piscine pourra accueillir près de 5000 spectateurs.
Un point important à signaler, c'est que ce lieu sera adapté après les Jeux Olympiques pour servir aux habitants.
Tout à fait, il y aura d'autres bassins, une salle de fitness ou encore des blocs d'escalade.
Tant mieux, car les exemples de construction laissés à l'abandon après des Jeux Olympiques sont beaucoup trop nombreux. Pourquoi terminons-nous ce mois d'avril, Gaël et Sarah ?
Nous repartons en voyage, mais cette fois-ci un peu plus loin en Inde.
Jusqu'au 1er juillet, des élections ont lieu dans le deuxième pays, le plus peuplé du monde.
Ils doivent élire leurs députés. Ce sont des personnes qui discutent des nouvelles lois.
C'est une énorme organisation car près de 1 milliard de personnes vont voter.
Merci les amis pour vos infos toujours aussi intéressantes et merci à vous qui venez de nous écouter. À bientôt.
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
Bonjour, je m'appelle Noël. Je suis un élève de la classe CE1 dans l'école Rosalind Franklin à Ivry-sur-Seine. Aujourd'hui, avec mes camarades, nous allons vous présenter les unes d'un jour une actu du mois de mai. Bonjour Camille Amir, quel était le premier sujet de mai ?
Bonjour Moam, comme en avril, on part en voyage, mais cette fois-ci dans l'espace.
Tout à fait Camille, 5 apprentis dont une française ont reçu leur diplôme d'astronaute.
Oui, elle s'appelle Sophie Arnaud et elle connaît maintenant les bases du métier d'astronaute.
Nul doute qu'elle doit désormais être impatiente de partir dans l'espace.
Impressionnant, merci Camille et Amir. Passons à l'actualité de Chinese et Essia.
Bonjour Noam, nouveau petit point. As-tu Jeux Olympiques, n'est-ce pas Essia ?
Oui Chinese, la flamme olympique est enfin arrivée en France.
Elle a traversé à bord du Belém la mer Méditerranée de Grèce jusqu'à Marseille.
Le trajet a duré 12 jours pendant lesquels 3 gardiens ont veillé sur la flamme jour et nuit.
Bonjour Noam, un jour une actu nous parle de la nuit européenne des musées qui a eu lieu le 18 mai dernier.
Oui, Mohamed Ali, une fois par an, on peut aller au musée la nuit.
Les musées profitent de cette nuit pour montrer leur exposition de façon différente.
Oui, les musées organisent des animations et des jeux, des visites guidées, etc.
Merci Rayana et Mohamed Ali. Par quoi terminons-nous ce mois de mai, Adem et Lina ?
Un jour, une actu nous donne 5 secrets sur Kylian Mbappé, qui vient de passer la barre des 300 buts.
Nous apprenons qu'à 8 ans, Kylian prenait des cours de flûte traversière.
À 12 ans, il quitte la maison familiale pour entrer à Clairefontaine dans le but de devenir une star mondiale.
Là-bas, il faisait partie des plus petits et on lui a donné le surnom de Mbappé. MBB.
D'ailleurs, il n'était pas encore le meilleur
malgré son talent.
Pour finir, à 14 ans, il a été accueilli comme une star par le Real Madrid pour visiter le club.
Merci les amis pour vos infos toujours aussi intéressantes et merci à vous qui venez de nous écouter. À bientôt.
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Bonjour, nous sommes les élèves de CEA de l'école Rosaline Franklin à Ivry-sur-Seine.
Nous sommes 28 élèves et nous avons entre 7 et 8 ans.
Toute l'année, vous avez pu nous entendre décrire et travailler sur les affiches des essentiels d'un jour une actu.
Aujourd'hui, c'est à nous de créer notre propre affiche. Nous avons la chance d'avoir la présence de Sarah Velia, une illustratrice professionnelle, pour nous accompagner dans notre tâche.
Elle va pouvoir nous aider à réaliser notre affiche, mais surtout nous apprendre plein de choses sur la création d'affiches, ce qui nous permettra de mieux comprendre chaque choix lorsqu'on étudiera de nouvelles affiches.
Le thème de notre affiche porte sur l'égalité filles-garçons.
Un thème que nous avons travaillé à plusieurs reprises au cours de l'année. Et notamment lorsque nous avons étudié notre première affiche des essentiels sur les stéréotypes.
Avant de travailler avec Sarah, nous avons décidé de l'interviewer pour savoir qui elle est et mieux comprendre son métier d'illustratrice.
Et oui, nous sommes de petits curieux, mais nous sommes généreux, alors on vous laisse tout de suite découvrir l'interview que nous avons enregistrée dans notre classe.
Reportage dans mon cartable.
Bonjour, peux-tu te présenter ?
Bonjour, alors je m'appelle Sarah, j'ai 36 ans, je suis née à Paris et je vis encore à Paris. Et j'ai deux enfants et je suis illustratrice.
Quel est ton métier ?
Alors je suis illustratrice, donc mon travail c'est de représenter avec le dessin des idées, des textes, des concepts, plein de tout ce qui n'a pas d'image, et ben moi je mets des images dessus.
Comment es-tu devenue illustratrice ?
Alors j'ai fait des études pour ça. J'ai fait une école d'art juste après avoir eu mon baccalauréat. Et à la toute fin, je me suis spécialisée. J'ai fait une classe, une section spéciale d'illustration. Et puis après, j'ai travaillé. Et c'est en travaillant de plus en plus qu'on acquiert de l'expérience et qu'on peut dire, ça y est, je suis illustratrice.
Pourquoi fais-tu ce métier ?
Alors, j'adore dessiner. Vraiment, j'adore dessiner. Et puis aussi, il faut que je vous fasse une petite confidence. Moi, j'ai un peu du mal avec les mots. Je ne sais pas très bien m'exprimer. Je ne sais pas très bien écrire mes sentiments, raconter avec des mots. Ce n'est pas ce qui me plaît le plus. Moi, j'aime raconter les choses en dessinant. Donc, c'est pour ça que je fais ce métier.
Quels sont tes horaires de travail ?
Alors, je travaille en général de 8h30 du matin à 17h. Ensuite, je vais chercher mes enfants, je m'occupe d'eux. Et jusqu'à 20h. Et puis à 20h, parfois, ça m'arrive de retravailler. Jusqu'à 22h. Mais parfois, hein, vraiment pas tout le temps.
Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier ?
Ce que j'aime, c'est que chaque nouveau travail qu'on me propose est différent. Je refais jamais deux fois la même chose. J'ai toujours besoin de réfléchir de nouveau à comment montrer les images, comment penser. Et ça, ça me plaît beaucoup. Et je suis obligée aussi de m'intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup au sujet que je vais devoir illustrer.
Comment as-tu appris à dessiner ?
Alors, je dessine depuis que je suis toute petite. Et j'ai pris beaucoup de leçons, beaucoup de cours. Et puis à l'école, après le bac, quand j'étais en école d'art, j'ai appris à dessiner. J'ai passé des heures et des heures et des heures à dessiner.
Quel type de documents illustres-tu ?
Alors, j'illustre des livres, des articles de journaux. J'illustre, vous savez aussi, par exemple, parfois pour des produits, on a besoin d'imaginer un petit peu l'univers de ce produit-là. Je sais pas, moi, par exemple, pour une boisson, si on veut vendre une boisson, eh ben, il faut créer un personnage. Voilà, donc je peux travailler pour ça, donc la publicité. Donc, j'ai dit quoi ? Livres, articles, publicité. Des podcasts aussi. Vous savez ce que c'est, les podcasts ?
Oui.
C'est un peu comme la radio. Voilà, ça dépend. J'illustre plein de choses.
Avec quoi dessines-tu et que préfères-tu utiliser ?
Alors, au tout départ, je dessine toujours avec un crayon ou un stylo. Je fais mon premier croquis, ma toute première esquisse. Et puis ensuite, j'ai une autre partie où je dois, mettre des couleurs, mais avec des matières. Donc, je fais des grands fonds de matière de peinture que je prends en photo. Et je mets tout ça ensemble sur mon ordinateur. Et je dessine principalement sur mon ordinateur parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire sans l'ordinateur.
Comment te viennent tes idées d'illustration ?
Eh bien, alors, je lis plusieurs fois ce qu'on me donne à illustrer. Et en fait, ça fait son chemin. Donc, je dessine, voilà, j'essaye de trouver des éléments qui m'intéressent, qui me semblent parlants pour tout le monde. Mais alors, je vais te dire un truc. Souvent, mes idées, elles me viennent juste quand je suis dans mon lit et que je suis en train de m'endormir et tac, j'ai la bonne idée. Voilà. C'est comme ça que ça me vient. Mais avoir des bonnes idées pour moi, ça vient du fait de beaucoup se renseigner, d'avoir une bonne culture. Il faut lire beaucoup, il faut aller voir des expositions, il faut découvrir plein de choses pour pouvoir emmagasiner énormément d'informations et s'en servir pour pouvoir recréer quelque chose. Voilà.
Quel est parmi tes dessins celui dont tu es la plus fière et pourquoi ?
Alors, c'est le tout dernier livre que j'ai illustré et qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est un livre qui parle d'une petite fille qui se retrouve toute seule avec son papa parce que la maman part en voyage pour le travail. Et donc, j'ai dû illustrer cette relation entre le papa et la petite fille qui ne savent pas très bien comment se retrouver tous les deux. Et pourquoi je suis très fière ? Parce que ça m'a demandé beaucoup de travail et que je crois que j'ai réussi à montrer cette relation qui, finalement, ils s'apprivoisent, ils arrivent à devenir vraiment complices, à vraiment s'entraider. Et voilà. Et puis la maman revient à la fin, donc tout va bien.
Merci. Merci, maman.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté notre interview sur Sarabella.
Reportage dans mon cartable.
Thank you. Bonjour à tous, vous écoutez la Radio Libertaire 89.4, vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux, que vous commencez à connaître et que vous connaissez très bien pour ses cocktails musicaux. Aujourd'hui, j'ai deux invités, nous allons parler de deux romans, donc un premier roman avec Catherine Boré, Un monde d'ego, qui vient de paraître aux éditions Il est midi, un premier roman fort réussi de Catherine Boré, Un monde d'ego, et Elisabeth Laureau-Doll pour La Mijaurée d'Auguste C. Ça vient de paraître aux éditions Diabase, collection littérature. Elisabeth Laureau-Doll était déjà venue à notre micro pour discuter avec nous. Alors, ça fait un grand plaisir de vous retrouver, Elisabeth, dans le studio de Bibliomanie. Et moi puis aussi. Vous, Catherine, je pense que c'est votre première radio.
Absolument.
Donc, avant que nous cheminions à vos côtés, alors j'ai trouvé, il n'y a apparemment pas de point commun entre vos deux romans. Si ce n'est, c'est un peu l'histoire de l'idéal, de l'utopie. Du monde, parce qu'Auguste Comte, c'est un peu le personnage central aussi de votre roman, Elisabeth Laureau-Doll.
Oui, c'est l'ombre portée.
Ah, l'ombre portée, vous y connaissez en ombre portée, puisque la dernière fois, vous nous en aviez parlé longuement. Mais c'est vrai que, comment dire, c'est... la perspective, comment toutes les deux vous interrogez sur l'avant, l'après, l'idéal, c'est-à-dire les idéaux qu'on porte en soi, que l'humanité porte en soi, et puis la pratique. La pratique. Alors pour vous, Elisabeth Laurendol, c'est sur la version d'un couple, d'un couple à trois, on pourrait dire, constitué par Auguste Comte, sa femme et son égérie, qui était Clotilde de Vaux, je crois. Voilà.
C'est ça.
Alors, je vais vous demander d'abord à l'une et l'autre de vous présenter. Elisabeth Laurendol, vous avez été enseignante.
Oui, j'ai enseigné et la philosophie et les lettres. Ensuite, j'ai fait un peu de journalisme, disons, et j'ai écrit, comme vous savez, un certain nombre d'ouvrages qui sont toujours des ouvrages de transmission jusqu'à maintenant.
Il faut dire que vous avez débuté au seuil jeunesse, entre autres. Et puis, moi, je vous ai connu avec un livre qui est paru aux éditions du Sonneur, La jument de Socrate. Et après, je pense que vous êtes venu ici pour un autre livre.
Je ne sais pas si j'étais venue pour Et l'ombre s'est épaissie.
C'est ça, voilà.
Voilà. La jument de Socrate, je réhabilitais Xantippe, la femme de Socrate. Et l'ombre s'est épaissie, c'était quelque chose de tout à fait différent, puisqu'en fait, c'était une dette que je devais, en quelque sorte, à une amie qui était survivante de la Shoah. Donc, le thème était vraiment très différent.
Voilà. Alors, Catherine Boré, vous, c'est votre premier roman. Vous avez été...
Tout à fait.
Alors, présentez-vous. Alors, voilà.
Écoutez, moi je pense que je présente un cas rare d'écriture tardive. Bon, puisque c'est un premier roman. Mais ça ne veut pas dire que je n'avais pas écrit auparavant. J'écrivais, comme on dit, un petit peu pour moi, de l'écriture de fiction, des nouvelles, des poèmes, un journal intime, et même roman pour la jeunesse. Mais j'avais publié quelques nouvelles dans des revues, mais là, vraiment, je me suis lancée dans un roman. Et puis autrement, pour ma vie antérieure, si l'on peut dire, évidemment, professionnellement, j'étais amenée à écrire, puisque j'étais universitaire, enseignant-chercheur, comme on dit, professeur d'université, donc avec une partie d'enseignement et une partie de recherche, et donc la nécessité aussi de produire beaucoup, beaucoup d'articles et de livres.
Et voilà. Puis, vous avez publié dans des revues aussi nouvelles.
Des nouvelles, voilà, des nouvelles. Absolument.
Et votre spécialité, c'était les sciences du langage, ce qui m'a intéressée dans votre roman, Catherine Boré. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de thèmes, c'est un roman foisonnant. Alors, je dirais que l'une et l'autre, vous ne boxez pas dans la même catégorie, on va dire.
Non.
Elisabeth Laurendol, vous, c'est un style court, j'allais dire presque théâtral. Parce qu'il y a unité de temps, unité de lieu, unité d'action.
Absolument.
Avec le chrono qui s'enclenche.
Tout à fait.
Et vous, Catherine Boré, c'est un style, c'est un style terrien, c'est un style nourri. C'est une écriture nourrissante et nourricière.
Ah oui, j'accepte tout à fait ça. Oui, incarné, on va dire.
Très incarné.
Voilà.
Dans un monde futur. Et alors, vous, Catherine Boré, c'est vrai qu'on en parlera tout à l'heure.